J'ai reçu ton ordinateur.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Puce à l'oreille. En 15 minutes chrono, l'informatique et ses concepts nébuleux sont rendus simples, concrets, pratiques, accessibles. Sur un temps ludique, on explore les différentes possibilités offertes par le numérique et surtout, on les dépasse pour imaginer un horizon virtuel plus désirable. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free. Ainsi commence la chanson Free Software Song, un des hymnes de la communauté libre écrit par Richard Stallman, un programmeur et fervent défenseur du logiciel libre, parangon de la liberté et figure emblématique de la culture libriste, devenu aujourd'hui controversé pour ses propos polémiques autour de l'affaire Epstein. Mais ça, c'est une autre histoire. Figurez-vous qu'aujourd'hui, cet outil du logiciel libre n'est pas réservé qu'aux hackers et initiés du secteur, et il pourrait même être en passe de s'institutionnaliser. Dans ce nouvel épisode, on revient sur l'histoire du logiciel libre, on décortique ce concept et on imagine ses prochains développements. Le tout en compagnie d'Alexis Kaufmann, l'un des fondateurs de Framasoft, un réseau d'éducation populaire consacré au logiciel libre. Aujourd'hui, Alexis Kaufmann travaille au sein du ministère de l'Éducation nationale comme chef de projet logiciel et ressources éducatives libres et mixité dans les filières du numérique. Allez, bonne écoute! Logiciel libre, open source, on utilise parfois de façon indifférenciée ces deux expressions. Pourtant, il est très important de les distinguer. Alors, ça veut dire quoi, open source, Alexis Kaufmann ?
L'open source, en fait, ça va désigner le logiciel sous son aspect d'ingénieur, c'est-à-dire une manière efficace, originale, collaborative, de créer, fabriquer, maintenir du logiciel.
Un logiciel open source, c'est donc un logiciel dont le code est ouvert. Le logiciel libre, quant à lui, ouvre le champ des possibles et fait résonner un sentiment de liberté. Mais pourquoi ? Est-ce à dire que certains logiciels ne le seraient pas, Alexis Kaufmann ? Bon, vous l'avez deviné, deuxième question, c'est quoi le logiciel libre ?
Qu'est-ce que c'est qu'un logiciel libre ? C'est un logiciel à laquelle on a collé une licence, en fait c'est juridique, et qui va offrir quatre libertés à l'utilisateur. La liberté d'usage, la liberté d'étude, la liberté de modification et la liberté de partage. Voilà. Comment c'est arrivé historiquement ? Moi, je suis professeur de mathématiques. Les mathématiques, depuis la nuit des temps, se partagent. Il n'y a pas de copyright sur le théorème de Pythagore. On ne paye pas de droits. Et dans le monde académique, on s'est toujours partagé les connaissances mathématiques. Après, oui, ça peut être utilisé dans l'industrie, etc. On peut mettre des brevets ensuite sur des fabrications. Mais toujours est-il qu'on a toujours partagé les mathématiques. Et en informatique, c'était pareil. Les informaticiens se partageaient le code, naturellement. Et puis, tout d'un coup, certains se sont dit, si on ferme le code, eh ben on peut lui donner une rareté, puisque certains y ont accès, d'autres non, d'autres pas. Et puis, on peut construire un modèle économique en vendant du logiciel. Comme ça, ceux qui achètent auront accès au code, enfin, en tout cas, pourront l'utiliser, etc. Et c'est là que, par résistance, pour en fait conserver les origines du partage naturel de l'informatique et du code, certains par résistance, donc historiquement c'est Richard Stallman, se sont dit il faut protéger ça, c'est-à-dire que, ok, certains peuvent tout d'un coup fermer le code, on veut pouvoir continuer à travailler de manière ouverte et collaborative, et donc on lui a collé une licence, et cette licence garantit justement les quatre libertés que je vous ai citées.
En anglais, le logiciel libre est appelé « free software ». Or, ce mot peut être traduit en français de deux façons, libre ou gratuit. Cette confusion possible ne convenait pas au monde industriel et économique qui lui a donc préféré le thème d'open source, comme nous l'explique Alexis Kaufmann.
Les logiciels open source et libre sont souvent les mêmes d'un point de vue pratico-pratique, mais ce n'est pas du tout la même approche. Il y avait une approche plutôt économique et l'autre, c'est une approche qui est plutôt sociale, voire même politique.
Comme le montre la Free Software Song que nous avons évoquée en introduction, le mouvement du logiciel libre a toujours été traversé par la politique. Il porte des valeurs fortes, sécurité, autonomie, souveraineté, mais aussi liberté, encore une fois, partage des connaissances, accès non discriminant, etc., etc. On en a également parlé en introduction de ce personnage fondateur du logiciel libre, encore lui, Richard Stallman. On vous livre maintenant sa vision du monde selon sa devise qui vous dira certainement quelque chose, liberté, égalité, fraternité. S'il y a bien dans le logiciel libre cette idée d'émancipation, les GAFAM ont comme souvent ajouté leur grain de sel. C'est ce que nous explique Alexis Kaufmann.
Les GAFAM ou les Big Tech adorent l'open source pour le coup. Peut-être pas forcément le logiciel libre, mais l'open source. Donc, tous leurs produits, dans tous leurs services, il y a des briques open source. Parce que le logiciel libre est non discriminant. Donc, on peut utiliser tout ou partie d'un logiciel libre pour construire par-dessus des services. Et Android est un bon exemple. Android, en fait, vous avez une couche de départ, une couche basse, comme on dit, qui est open source. Mais par contre, quand Google vend des ordinateurs, enfin vend son système d'exploitation mobile à des constructeurs, on rajoute toute une couche où il est quasiment impossible d'avoir accès au service sans avoir un compte Google. En fait, c'était des universitaires, justement, ils ont utilisé beaucoup d'open source, ils s'en sont pas cachés. D'ailleurs, Google propose, finance de l'open source et libère souvent du code. Hein. Mais il n'empêche que aujourd'hui, ils ont une taille. La taille en soi est un énorme problème. Voilà. Ils sont aussi puissants que des États. Quand bien même la gouvernance irait dans une direction acceptable, ils sont beaucoup trop gros. On a des phénomènes de concentration et de centralisation qui effectivement posent d'énormes problèmes.
Mais dans la culture libriste, on favorise plutôt la décentralisation, n'est-ce pas, Alexis Kaufmann ?
Framasoft parle de l'archipel, c'est assez joli, c'est-à-dire, voilà, vous avez des îlots, mais qui sont reliés entre eux, avec des ponts, enfin, vous pouvez utiliser l'image que vous voulez. Mais on est sur quelque chose qui va être décentralisé, dans des communautés qui maîtrisent leur technologie, leurs données, etc. Et qui vont communiquer avec d'autres communautés, selon, mais voilà. Alors, tout en conservant toujours la liberté de choisir avec qui je partage, quoi.
Un archipel contre l'iceberg Google. C'est précisément la mission que s'est donnée l'association Framasoft avec Dégooglisons Internet entre 2014 et 2019. Une campagne qui s'attachait alors à promouvoir les communs numériques. Bon, nouvelle question Kezako, c'est quoi un commun numérique, Alexis Kaufmann ?
Un commun, c'est une ressource qui va être créée ou maintenue collectivement par une communauté qui se donne des règles pour assurer le caractère collectif et partagé de la ressource. Donc en fait, vous avez une ressource, une communauté et des règles. Voilà, la nouveauté avec les communs, c'est de ne pas se focaliser uniquement sur la ressource, qui peut être du code, donc du logiciel libre, mais sur la communauté derrière et la gouvernance que se donne cette communauté pour que cette ressource soit partagée à toutes et tous. Et comme un numérique, pourquoi on ajoute numérique et pourquoi c'est intéressant, c'est parce que la copie d'une ressource numérique est relativement simple, facile et entre guillemets peu coûteuse. Je dis entre guillemets parce qu'aujourd'hui la sobriété numérique est dans l'agenda et qu'on s'est aperçu que ça avait quand même un coût. Cette notion de commun numérique est intéressante d'abord parce que la ressource est envisagée comme libre, mais aussi parce que ça oblige à penser gouvernance partagée, gouvernance ouverte, qui décide comment, pourquoi, et c'est engageant pour toute la communauté d'utilisateurs de la ressource.
La France a récemment présidé l'Union européenne et a poussé cette idée de commun numérique. Enfin, qu'est-elle proposée exactement, Alexis Kaufmann ?
Parmi les propositions, il y avait justement une fondation à l'échelle européenne pour soutenir le développement du logiciel libre. Et une autre idée qui est forte, c'est la priorité qui serait donnée au commun numérique pour tout financement public, en fait. Par défaut, tout financement public devrait être envisagé comme un commun numérique. Ou c'est un petit peu comme si je vous disais, par défaut, si tout d'un coup on se met on lance un projet informatique, par défaut il serait sous licence libre, par défaut ce serait du logiciel libre.
Et si les communs numériques concernent les logiciels, ils concernent également les ressources, n'est-ce pas, Alexis Kaufmann ?
C'est important de les distinguer et c'est important d'envisager aussi les ressources libres, les ressources éducatives libres. Que sont des ressources éducatives libres ? C'est du contenu pédagogique qui conserve les quatre libertés. Accès, usage, étude, modification, partage. Il me semble que c'est important que le contenu pédagogique, que je sais pas moi, les cours, les activités puissent se partager entre enseignants, avec les élèves. Ça me semble quelque chose. C'est dans le cadre d'une école républicaine publique, ça me semble à favoriser de pouvoir avoir des contenus à disposition, mais aussi de les créer, de les maintenir, de les améliorer ensemble pour enrichir tout ça.
Et cette philosophie s'applique également au logiciel de visioconférence open source recommandé par le ministère de l'Éducation nationale, Big Blue Button.
Aujourd'hui, on est sur un logiciel libre qui s'appelle Big Blue Button, sur lequel non seulement on utilise du logiciel libre, donc en faisant ce choix, mais en plus on contribue à son développement. C'est-à-dire qu'en fait, l'année dernière, on a fait tout un rétexte, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a demandé à professeurs et élèves de nous dire ce qui allait, ce qui allait pas sur à l'usage de Big Blue Button, qu'est-ce qu'ils souhaitaient qu'on améliore. On a retenu comme ça quelques priorités et on a financé le développement de ces fonctionnalités qui maintenant se retrouvent dans le code de la nouvelle version de Big Blue Button. Nous, ça nous sert parce que ça répond à nos besoins qu'on a identifiés. Mais comme on l'a reversé sur le code du logiciel Big Blue Button, ça sert à l'ensemble des utilisatrices et des utilisateurs de Big Blue Button, donc au monde entier, entre guillemets. En tout cas, sachant que Big Blue Button est très utilisé dans le monde académique et universitaire et scolaire, et ben, on sait que ça, du coup, ça sert à plein d'autres élèves et étudiants à travers le monde.
L'avantage du logiciel libre, c'est que les améliorations apportées au logiciel de classe virtuelle profitent également à d'autres outils numériques de l'État, comme nous l'explique encore une fois Alexis Kaufmann.
Et le travail qu'on a fait pour cette classe virtuelle, en fait, sert aussi à nous, agents du ministère, pour communiquer. C'est notre outil de communication, ça s'appelle VisioAgent, mais sert aussi aux autres ministères, parce que ça s'appelle le webinaire de l'État, c'est un service de la DINIB. Comme outil de visio et de communication. Donc ça me semble quelque chose d'assez intéressant. Et ça c'est possible parce que justement on a un logiciel libre, on a la main dessus, on peut opérer les modifications que l'on souhaite, on mutualise. Et puis surtout, donc là, c'est le ministère français qui a financé du développement pour Big Blue Button.
Et oui, avec le logiciel libre, la connaissance et les progrès profitent à tous et à toutes. On comprend mieux pourquoi cette philosophie, qui s'épanouit bien souvent dans les Fab Labs et autres hackerspace, est parfois taxée de politique ou de révolutionnaire. Enfin, nous, on vous dit ça, on vous dit rien, on vous met juste la puce à l'oreille. Si vous souhaitez aller plus loin, la puce à l'oreille vous recommande de vous rendre sur le site web de Framasoft pour y découvrir l'archipel de solutions proposées pour dégoogliser Internet. Et si la dimension politique du mouvement libriste vous intéresse, on vous recommande de vous plonger dans Utopie du logiciel libre, un livre de Sébastien Broca et Christopher Kelsey. Sur Chute.media, dans notre numéro 9, Les nouveaux codes du travail, nous avons également interviewé l'entreprise Dalibo, fondée par une communauté libriste et qui prône le partage de toutes les richesses qu'elle produit au sein de sa gouvernance, une gouvernance qui n'est autre que tous les salariés de l'entreprise qui sont également actionnaires. Je suis Sophie Comte, cofondatrice de Chute Magazine et de Chute Radio, et je suis ravie d'avoir prêté ma voix à Swarma. Ce podcast a été écrit par la journaliste Nolwenn Mogwen. Nous remercions également notre sponsor, l'assureur AXA. Pour écouter les prochains épisodes, tapez la puce à l'oreille dans votre plateforme d'écoute et même Chute Radio pour découvrir toutes nos émissions. À bientôt !